Pierre Laurie, vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Vous êtes détenteur de la chaire de mystique musulmane depuis de nombreuses années. Comment en êtes-vous arrivé à vous spécialiser en islamologie et en mystique musulmane?
C'est un chemin qui était tout à fait inattendu. Quand j'étais étudiant, c'était après 1968, tout le monde s'intéressait à la politique comme si ça allait résoudre tous nos problèmes. C'était vraiment l'horizon eschatologique de l'époque. Et j'avais étudié les sciences politiques et l'arabe. Et puis je suis parti au Liban pour me perfectionner en arabe. Et la situation politique était assez désespérante, il faut bien le dire. Mais j'ai fait la connaissance de la culture arabe, de la religion musulmane vécue. Surtout, j'ai pu rencontrer de façon un peu inattendue aussi des soufis, c'est-à-dire des musulmans, mais qui appartiennent à des courants mystiques musulmans. Et cette rencontre, pour moi, a été assez décisive parce que j'ai vu qu'il y avait des musulmans pour qui la religion n'était pas simplement appliquer les règles de la loi, prier 5 fois par jour, jeûner en ramadan, mais pour qu'il y avait véritablement une recherche spirituelle extrêmement, extrêmement exigeante. Et donc, pour moi, en tant que chrétien, ça a été aussi une manière de découvrir une forme de spiritualité qui m'a toujours et passionné et qui continue à me passionner parce que c'est un véritable continent spirituel qui anime jusqu'à nos jours l'islam dans tous ces pays.
Vous étiez en sciences politiques dans les années 76, c'est ça?
C'est ça.
Et puis cette rencontre bouleverse tout. Quand vous regardez ces rencontres au Liban, pourquoi elles vous ont à tel point enthousiasmé?
Il faut dire que, à l'époque, je m'en rends compte, le matérialisme ambiant était tellement étouffant que brusquement, en découvrant à travers ces rencontres, à travers aussi des lectures, à travers mes rencontres aussi avec le professeur Henri Corbin, qui était, je trouve, un très, très grand penseur du XXe siècle, brusquement, on se dit, mais l'apparence matérielle des choses peut très bien renvoyer à autre chose, comme si, au fond, ce que nous voyons ne serait que l'alphabet d'une langue dont la signification serait tout à fait ailleurs. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à lire sous la direction du professeur Arnaldez, pour qui j'ai aussi beaucoup, beaucoup d'admiration. J'ai commencé à étudier un commentaire mystique du Coran. Donc le Coran, pour les soufis, a un sens extérieur comme pour tous les musulmans, mais il lui rapporte aussi un sens complètement différent, un sens spirituel. Mettons, il est dit dans le Coran, les Hébreux, à l'époque de Moïse, ont adoré le veau d'or, et Dieu ordonne, par l'intermédiaire de Moïse, tuez-vous vous-même, c'est-à-dire il y a un massacre qui a eu lieu, les adorateurs vont être tués. Les soufis interprètent, tuez-vous vous-même, c'est-à-dire tuez votre ego, tuez votre âme charnelle, anéantissez-vous en Dieu. Donc il y a ce type-là de passage d'un sens extérieur à un sens intérieur qui fait que le Coran lu par les mystiques devient un livre complètement différent.
Pierre Laurie, vous êtes chrétien et j'imagine que votre foi vous donne aussi un regard perspicace vis-à-vis de cette mystique.
Oui, ce qui est frappant, disons, dans la mystique musulmane, c'est un aspect paradoxal entre, d'une part, des textes lyriques où est chanté l'amour divin, et simultanément, c'est aussi une mystique de l'anéantissement en Dieu, parce qu'il n'y a aucun contrepoids à l'être divin. Pour les mystiques musulmans, seul Dieu existe au sens propre. Toute la création n'est au fond qu'une projection de Dieu, un rêve de Dieu. Les hommes n'ont de consistance, ils n'ont d'existence que dans la mesure où Dieu leur donne une existence. Et donc, l'homme de Dieu accepte de s'anéantir en Dieu et puis il surexiste en quelque sorte par la grâce que lui fait Dieu, comme une espèce d'image dans le miroir divin. À la fois, il y a des accents lyriques où on peut retrouver tout à fait une sensibilité de Saint Jean de la Croix. Mais par ailleurs, il y a aussi cet aspect-là qui, à mon sens, est assez éloigné de la spiritualité chrétienne.
La personne du Christ, en tant que fils de Dieu, comment est-elle perçue, comment est-elle comprise?
Alors, la question de la médiation en islam est très paradoxale, parce que le Coran dit clairement que le Christ n'était qu'un envoyé, donc ce n'était qu'un homme. Le Coran dit clairement qu'il était né d'une vierge, qu'il a accompli des miracles, ressuscité des morts, qu'en outre, il n'a pas été tué, mais qu'il est monté aux cieux. Il a un destin qui est assez extraordinaire, la tradition affirme même qu'il n'a jamais été touché par le péché, lui et sa mère. Mais néanmoins, ce n'est qu'un homme. Le prophète Mohammed, par contre, est considéré comme donc, le dernier des prophètes, le plus parfait des prophètes, et donc supérieur à tous les prophètes. Donc il n'est pas du tout question de considérer la divinité du Christ qui est refusée par le texte du Coran. Mais le paradoxe, c'est qu'au fil des siècles, les musulmans se sont mis à vénérer leur prophète d'une manière de plus en plus accentuée. Le Coran semble dire que le prophète a eu des hésitations, des craintes, qu'il a eu des désirs envers, mettons, telle femme, qu'il a eu des faiblesses même. Dans les générations qui ont suivi sa mort, son souvenir a grandi. On en a fait un homme garanti contre l'erreur, que tout ce qu'il a pu dire était vrai, que tout ce qu'il a pu faire était juste. Il devient un modèle parfait. Et, disons, vers le 9e, 10e siècle, on en vient même à dire qu'il préexistait au monde. Notamment dans les milieux soufis, on disait qu'à l'origine, Dieu créa une lumière, la lumière de Mohammed, et il a créé le monde à partir de la lumière de Mohammed. Donc on voit apparaître soit un islam repensé à travers le néoplatonisme où Mohammed deviendrait le germe de toute la création, soit une sorte de christologie sans Christ. Ce qui montre bien, en quelque sorte, qu'il y a le besoin intérieur de la médiation entre Dieu et les hommes finit quand même par se faire jour, puisque à l'heure actuelle, les musulmans professent qu'on ne peut être musulman que si l'on croit qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète. Il ne suffit pas de croire que Dieu est unique et transcendant, et ça ne peut se faire que par la médiation de Mohammed. Ce qui montre bien que là aussi, malgré tout, petit à petit, cette médiation s'est créée.
Pierre Laury, pour revenir à vos rencontres qui ont précédé vos choix d'études de l'arabe et de l'islam, est-ce qu'on peut dire que ces rencontres ont été comme une expérience spirituelle?
Oui, tout à fait, tout à fait. Non, je reconnais que j'ai vraiment une dette très profonde à toutes les rencontres que j'ai pu faire à ces soufis à des degrés divers, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que il y a vraiment des gens qui sont engagés de toute leur force dans la découverte de la vérité, d'une façon très différente de celle que j'avais vécue dans ma jeunesse, où malgré tout, la cité terrestre comptait beaucoup, alors que dans le soufisme, beaucoup moins, sinon même pas du tout. Et puis, alors une sensibilité aussi très différente dans la mesure où, comme en islam, la fidélité envers Dieu, la ferveur envers Dieu se traduit par des gestes, par des rites. Les prières sont gestuées en islam. Le jeûne, c'est une façon matérielle aussi de rendre compte de sa foi. Et les rituels soufis consistent en des litanies que l'on récite des centaines de fois, des milliers de fois. Et là aussi, ça donne du corps à la spiritualité. Du coup, ça fait que mettons des très jeunes hommes ou bien des hommes très peu cultivés peuvent s'associer très facilement au rituel soufi où on récite, mettons, un nom de Dieu des milliers de fois. C'est quelque chose de très accessible et en même temps de très très fervent.
Alors Pierre Laury, comment évoluez-vous par rapport à votre foi chrétienne et votre étude sur la mystique musulmane?
À vrai dire, un de mes premiers souvenirs de mes lectures en mystique musulmane, c'est la question de est-ce que le saint se rend compte qu'il est saint? Alors, à mon niveau complètement humble et minuscule, bien sûr, j'ai un peu arrêté de me poser la question en me disant, bon, je suis sur un chemin, j'ai cette chance insigne de pouvoir chaque jour travailler en lisant des textes de mystique musulmane magnifiques, en même temps que les textes que je lis et les milieux que je fréquente en tant que chrétien. Au fond, je crois que c'est comme la croissance d'une plante. On ne sait pas trop. Enfin, moi, je ne saurais pas trop mettre de mots dessus. Voilà.
Quelle différence y a-t-il entre un soufi et un saint?
L'usage fait qu'on parle de soufi dès lors qu'une personne est affiliée à une confrérie soufie. Dans le vocabulaire arabe, quand on parle de saint, de wali, c'est l'ami de Dieu. Au fond, c'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la prière, à lutter contre ses penchants personnels et à les remplacer par les qualités divines. C'est quelqu'un qui, au fond, a cherché, et pour les musulmans, a obtenu l'anéantissement en Dieu. Dès lors, c'est une personne qui est habitée par quelque chose comme une présence divine. Et c'est en ce sens-là qu'il est saint. Il est comme vidé de lui-même et habité par des qualités divines.
Quelle est la place de la charité?
Là, c'est quand même un point qui fait différence aussi avec la spiritualité chrétienne, en ce sens que il n'en est pas tellement question. Mais au niveau de la spiritualité, c'est l'homme seul face à Dieu. Et c'est en quelque sorte Dieu qui absorbe tout. Une des grandes saintes du 8e siècle, Rabi'a, était connue pour sa ferveur et son amour pour Dieu. Et un jour, elle a vu un de ses collègues soufis qui jouait avec un petit enfant, elle se met à le réprimander en disant « Mais comment peux-tu témoigner de l'amour pour quelqu'un d'autre que Dieu ?»
Pierre Lory, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une vraie, véritable mission aujourd'hui, ce que vous faites ?
J'espère, mais je ne suis pas seul. Il y a quand même beaucoup de chrétiens engagés qui continuent à travailler dans cette tradition qui est déjà ancienne. Il y a, dans la suite du grand orientaliste et mystique chrétien Louis Massignon, il y a tout un mouvement qui a eu lieu et qui continue avec beaucoup d'énergie. Je pense en particulier à la présence du jésuite italien Paolo Dall'Olio qui a fondé un monastère en Syrie. On ne sait pas s'il est vivant, hélas, enfin en tout cas, qui a semé vraiment des germes très forts de dialogue interreligieux dans cet esprit-là. Et donc, après lui, il a des disciples, il a fondé un ordre et ça continue. Et je crois que toute la violence qui a lieu maintenant, c'est une incitation précisément à continuer d'autant plus de force.
Merci Pierre Lory.
Merci à vous.